Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine de la rédaction, premier volet sur deux qui seront consacrés aux élections cantonales, c'est-à-dire le renouvellement des conseillers généraux du département. Des élections cantonales qui auront lieu les 20 et 27 mars prochains, qui revêtiront un tour tout particulier puisqu'il s'agira des dernières en tant que telles, et les conseillers généraux ne seront élus que pour 3 ans. En effet, en 2014, régions et départements fusionneront et l'on élira des conseillers territoriaux. L'enjeu de la prochaine mandature départementale sera donc résolument tourné vers l'après 2014. Ces élections départementales ont été baptisées cantonales car elles sont organisées par canton. Au total, en France, on compte 3818 cantons. Chaque département est divisé en moyenne en une quarantaine de cantons. Il y en a 31 dans les Vosges, dont 15 qui seront renouvelés les 20 et 27 mars. Depuis 1848, un conseiller général est élu dans chacun d'entre eux. Les compétences du conseil général sont définies par la loi, notamment l'action sociale, l'éducation, les routes, le transport interurbain, les logements, mais aussi les archives départementales. L'action sociale est la compétence principale du département. Ce domaine recouvre les politiques en faveur des personnes âgées. Cela va du financement des maisons de retraite en passant par l'allocation personnalisée d'autonomie, mais aussi les personnes handicapées, l'enfance, mais aussi l'insertion sociale et professionnelle. Et le conseil général, comme son nom l'indique, a des compétences générales, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'intervenir dans des domaines facultatifs. Dans les Vosges, il a choisi le soutien à l'économie, l'action culturelle, les sports et les aides aux communes. Avec un budget de 475 millions d'euros, le Conseil général des Vosges gère le plus gros budget public du département. Bref, il s'agit d'une institution de proximité hautement interactive avec les habitants et dont malheureusement l'élection est souvent masquée par d'autres enjeux, comme par exemple en ce moment les futures présidentielles. Alors pour mieux comprendre les enjeux de ces cantonales dans les Vosges, nous aurons trois avis, celui de Philippe Fèvre, de la majorité départementale, chef de file d'un courant dit réformateur et surtout candidat affiché à la présidence de l'exécutif départemental. Étienne Pourchère, lui, est conseiller général PS, président du groupe d'opposition des élus républicains et socialistes du département, plus familièrement appelé Le Gré. Enfin, André Jacquelin est l'un des trois candidats du canton de Gérardmer. Il appartient à l'UMP et se revendique comme un candidat œcuménique au sein de la majorité départementale qui s'est peut-être un peu divisée ces derniers temps. Un courant réformateur représenté par M. Fèvre et un courant pro-Poncelet. Le président sortant, élu depuis 1962 et âgé de 83 ans, que d'aucuns verraient bien à la retraite. On commence par une rencontre avec Étienne Pourchère dans son fief de Brouvelieure, dont il est le conseiller général, et une petite explication sur le rôle de l'institution et du conseiller lui-même. On en profite aussi pour faire le point sur les forces en présence.
Aujourd'hui au Conseil Général des Vosges, il y a 11 élus du groupe des élus socialistes et républicains et 20 élus de la majorité, aujourd'hui sans doute divisés en deux groupes. Ce que nous demandons depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui certains à droite en sont venus à le demander également, c'est-à-dire un changement de direction et un changement de direction dans tous les sens du terme, c'est-à-dire autant au niveau de l'exécutif qu'au niveau de la direction choisie comme pour la politique du Conseil Général, donc le budget et les projets qui sont choisis.
Voilà qui est dit. Alors, quel est le rôle d'un conseiller général ?
Il y a deux rôles pour un conseiller général. D'abord, il s'occupe de son canton, puisqu'il est élu sur un territoire. Il essaye de faire en sorte qu'il y ait des projets qui émergent. Mais aussi, il est administrateur du département. C'est-à-dire qu'il vote le budget du conseil général, qui est le plus fort budget public du département. Il y a 475 millions d'euros pour le conseil général des Vosges. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Sur un certain nombre de compétences importantes, chacun les connaît. Quelquefois, elles sont un peu plus méconnues. Il s'agit des compétences sociales. C'est quand même la moitié de notre budget de fonctionnement. Par exemple, toutes les allocations de solidarité pour les personnes en insertion avec le RSA, pour les personnes âgées ou en dépendance. Je pense à l'APA, je pense aux maisons de retraite, je pense aux personnes handicapées aussi avec la prime de compensation du handicap, l'enfance, la protection maternelle infantile. Vous voyez, tout ce qui fait partie de la vie quotidienne des habitants des Vosges. Et puis à côté de ça, il y a un certain nombre de compétence sur les collèges, donc pour la jeunesse vosgienne, d'entretien des bâtiments, mais aussi de gestion du personnel d'entretien, des TOS. Il y a des compétences sur les routes départementales qui sont entretenues par le Conseil général. Il y a des compétences qui sont dans différents domaines comme le transport scolaire, des compétences qui sont, encore une fois, autour de la vie quotidienne des habitants du département.
Des élections cantonales, n'est-ce pas justement un terme qui dessert un peu l'enjeu de cette élection ? On a l'impression finalement que c'est moins connu, on en entend moins parler, on comprend peut-être moins l'enjeu que lorsqu'on parle de municipal ou de régional.
Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des élections départementales, même si elles s'appellent cantonales, mais elles s'appellent cantonales parce que la circonscription d'élection, c'est les cantons. Mais il y a un seul canton sur deux qui est rééligible, c'est-à-dire qu'on ne réélit que la moitié du conseil général à chaque fois, ce qui va changer avec la réforme territoriale, puisqu'on réélira tout le monde en même temps. Et aujourd'hui, effectivement, selon que vous habitez dans un canton renouvelable ou pas, votre conseil général est rééligible ou pas. Donc ça peut prêter à confusion sur un certain nombre d'électeurs. Donc aujourd'hui, la moitié des Vosges sont appelés à voter pour renvoyer une quinzaine, 15 exactement, de conseillers généraux. Il y en avait 16 la dernière fois, donc c'est une quinzaine à chaque fois. Vous voyez bien la moitié du conseil général.
Il y a aussi la réforme des collectivités territoriales qui est à l'horizon. Alors, que vont devenir les conseillers généraux et les conseils généraux dans cette réforme ?
Alors, le gouvernement a voulu changer toute l'organisation territoriale dans notre pays. Et donc, dans les 3 ans qui viennent, effectivement, il y a un enjeu fort, puisqu'il y aura la fusion des régions et des départements. Il y aura un seul élu qui siégera à la fois à la région et au département sur des cantons qui seront redécoupés. C'est-à-dire que les cantons n'auront plus la même forme qu'aujourd'hui et il n'y aura plus de conseillers régionaux et de conseillers généraux, mais seulement des conseillers territoriaux qui seront amenés à siéger à Épinal pour le conseil général et à Metz pour le conseil régional. C'est-à-dire qu'ils feront, j'allais dire, double casquette en plus de leur canton qui sera plus grand qu'avant. Les conseillers généraux qui ne sont pas rééligibles cette fois vont aller au terme de leur mandat jusqu'en 2014, et ceux que nous allons élire là cette année en 2011 ne feront que 3 ans de mandat, c'est un mandat raccourci pour que tout le monde soit réélu en même temps en 2014.
3 ans, c'est très court, qu'est-ce qu'on peut faire en 3 ans ?
D'abord, la priorité aujourd'hui, c'est d'arrêter un certain nombre de politiques départementales qui ne nous paraissent pas judicieuses et en tout cas qui ne préservent pas l'avenir. Je pense par exemple aux augmentations d'impôts fortes qui ont été faites ces dernières années, près de 69% rien qu'en un seul mandat en 6 ans là, dernièrement. L'endettement aussi, une spirale d'endettement qui s'est mise en marche dans ce département, qu'il faut vite stopper parce qu'après on ne saura plus l'arrêter. On a doublé l'endettement, la majorité UMP départementale a doublé l'endettement en un seul mandat. On est passé de 150 à 300 millions d'euros. Elle veut aujourd'hui ajouter d'autres dépenses en PPP, ce qu'on appelle PPP, c'est le partenariat public-privé, en gros la privatisation d'un certain nombre de travaux, notamment une grande route à 200 millions d'euros. Donc vous voyez que la dette pourrait, même dans les 3 ans là, accélérer encore son augmentation, puisqu'on ajouterait tout de suite 200 millions d'euros. Donc les impôts, la dette, et puis aussi le gaspillage, vous l'avez vu, dans un certain nombre d'endroits, il y a des choix d'investissement qui ne nous paraissent pas du tout judicieux. Je pense à la zone d'activité de Damblin, où il y a eu 25 millions d'euros d'investis pour aujourd'hui 0 emploi créé. 25 millions d'euros, c'est une année complète d'aide aux communes. Quand on voit que nos communes ont du mal à avoir des aides et que à la fin de l'année, il y a des dossiers qui sont refusés par le Conseil général, alors qu'il y a 25 millions d'euros qui sont investis au fond du département à Damblin pour une zone où il n'y a personne, quand bien même, par ailleurs, on a déjà des zones d'activité qui sont vides et qui sont disponibles aujourd'hui. Ce n'est pas un investissement, on pourrait dire, bah oui, mais si un jour, non, il y a déjà des zones d'activité qui existent. Quand je dis du gaspillage, c'est du vrai gaspillage et il faut arrêter.
Ici, évidemment, on touche à la politique et les orientations sont différentes pour messieurs Fèvre et Jacqueline à suivre.
Le magazine du samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. lâché par les dunes, entre terre et mer. Voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi. Je te raconterai ce rêve, quand tu veux on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, dignes et sans foi. Quand tu veux on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux on y va. Ici on vit caché, ici on vit damné. Ici le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, dignes et sans foi. Quand tu veux on y va. Toutes les couleurs du ciel.
Le magazine du samedi sur Cocktail FM.
Endettement, fiscalité trop lourde, investissement parfois inutile, ce sont les critiques adressées par Étienne Pourchère à la majorité départementale. Réponse donc du berger à la bergère par la voix de Philippe Fèvre, majorité départementale et qui est justement vice-président chargé des appels d'offres.
Les trois années qui s'annoncent sont des années importantes dans la perspective de la réforme qui doit entrer en vigueur en 2014, qui verra les conseillers territoriaux se substituer aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux. Cette période devra être mise à profit, effectivement, pour préparer la transition, étant précisé qu'actuellement, nous ne savons pas exactement quelles seront les compétences qui seront déclarées exclusives de l'une ou l'autre des collectivités territoriales, régions ou départements.
Revenons-en au secteur des investissements et de ce qui fait polémique.
La construction de nouvel itinéraire Épinal, Rambervillers, Saint-Dié, nouvel itinéraire routier, qui a également fait l'objet d'un projet de partenariat public-privé en cours.
Ce sera d'ailleurs un des dossiers en termes de financement les plus importants qu'aura à gérer la prochaine mandature, aux alentours de 200 millions d'euros.
C'est ça. Oui, c'est bien cela, vous avez raison. C'est le gros dossier, j'oserais dire, qui devra être réexaminé sérieusement, quelle que soit l'issue des élections prochaines. Nous sommes également dans une certaine phase d'interrogation, parce que nous craignons, je crains en tout cas, que la réalisation de cet itinéraire obère d'une manière importante les possibilités financières de notre collectivité pour les prochaines décennies.
Vous parlez d'obérer effectivement sur l'endettement finalement des prochaines décennies pour le département. Alors rappelez en quelques chiffres le budget du département et son taux d'endettement aujourd'hui.
Alors le budget du département pour 2011 a été voté sur la base d'un montant total de 470 millions d'euros, dont 70% pour le fonctionnement et 30% pour l'investissement. L'endettement actuellement est de l'ordre, peu ou prou, était au 1er janvier 2010 de l'ordre de 285 millions d'euros, qui représente un peu moins de 750 euros par habitant. Je ne pense pas que cet endettement ait augmenté au cours de l'année 2010. Il est même vraisemblable qu'il a un peu diminué parce que nous avons remboursé, je crois, quelques 25 millions d'euros en capital, et vraisemblablement la mobilisation de l'emprunt prévu au budget primitif 2010 n'a pas été très forte. Donc nous ne sommes certainement pas à fin 2010 dans une situation d'endettement plus forte qu'au début de cette année 2010. Il convient d'être prudent, même si ça n'est pas excessivement alarmant pour le moment et que la capacité d'autofinancement du département reste encore importante, puisque il est prévu au budget 2011 de dégager 31 millions d'autofinancement, et que tout cela permet donc d'être relativement serein pour l'avenir, serein mais attentif, parce que naturellement le budget social a tendance à augmenter d'année en année.
Politiquement, donc vous faites partie de la majorité départementale.
Nous sommes 20 membres de la majorité départementale, et sauf erreur de ma part, 4 ou 5 d'entre nous doivent être encartés à l'UMP. UMP. Personnellement, je ne le suis pas. Plus précisément, je ne le suis plus. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Donc, il s'agit d'une majorité clairement de droite par opposition, bien sûr, à nos collègues qui, eux, s'affichent plutôt de gauche. Dire qu'il s'agit d'une majorité affiliée ou inféodée à l'UMP, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et nous ne nous ressentons pas tels que, je dirais même que, enfin pour moi en tout cas, au niveau d'une collectivité comme le département, les étiquettes politiques ne me paraissent pas d'une grande importance.
Autre point qui concerne justement l'aspect purement politique de cette assemblée, dans la majorité départementale, il y a eu scission autour de la présidence. À un moment, les uns et les autres ont appelé de leur vœu un retrait de M. Poncelet. C'est ce qui fait d'ailleurs peut-être aussi un consensus entre l'opposition actuelle et une partie de la majorité.
Alors effectivement, nous sommes un certain nombre à avoir estimé que le temps était peut-être venu pour le président Poncelet d'aspirer à un peu de repos. Ça n'est pas lui faire injure que d'invoquer son âge et dire que voilà maintenant presque 50 ans qu'il figure au premier plan de la politique nationale, puisqu'il a été élu député de Remiremont pour la première fois en 1962, et que je dirais il a bien mérité de la patrie, il a bien mérité du département, de sa ville de Remiremont, de la région Lorraine même, à laquelle il a siégé pendant un certain temps. Je crois que le bon sens voudrait effectivement désormais qu'il passe la main. C'est le sens de notre démarche. Globalement, bien sûr, nous l'avons toujours accompagné fidèlement dans ses propositions, dans la manière dont il a mené la gestion de ce département. Il semble aujourd'hui que, malgré tout, certaines inflexions, certaines réflexions en tout cas, doivent être menées sur la suite. Nombre de mes collègues, donc de la majorité sortante, ont estimé qu'il fallait effectivement renouveler la tête de l'exécutif départemental.
Du reste, il s'agit maintenant, je crois, d'une majorité au sein de la majorité.
Alors écoutez, cela, ce n'est qu'au soir du deuxième tour que nous pourrons faire les comptes précisément. Personnellement, bien sûr, j'espère que ce que vous venez de dire se confirmera. Certains de nos collègues sont renouvelables, qu'ils soient d'ailleurs de tendance Poncelet ou de la tendance qui est la nôtre. Nul ne sait quelle sera l'issue, bien sûr, de la consultation des 20 et 27 mars, et la suite dépendra bien sûr en partie de la composition de la nouvelle assemblée départementale au soir du deuxième tour. Je pense et j'espère en tout état de cause que nous arriverons à trouver un consensus sur la manière avec laquelle nous aurons à gérer la petite période de 4 jours qui séparera le 27 mars du 31.
L'après 31, comment le souhaiteriez-vous? Qui verriez-vous à la tête du département?
Ah bien écoutez, ça n'est un secret pour personne que, à la demande de mes collègues, j'ai fait acte de candidature. Si mes collègues m'en donnent la mission, je suis prêt à relever le défi et à essayer d'assurer la succession du grand personnage qu'est Christian Poncelet. C'est une tâche qui s'annonce particulièrement difficile.
Cette tâche qui s'annonce particulièrement difficile, sur quel dossier pensez-vous qu'il faudra appuyer particulièrement dans cette période transitoire qu'on évoqué avant des 3 ans à venir?
Eh bien, indépendamment des compétences obligatoires du département, qui, vous le savez, sont le social, les transports scolaires, les collèges et bien sûr le réseau routier départemental, nous aurons à gérer l'austérité. Et il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui. Les départements, comme les régions, se trouvent confrontés à des impératifs de resserrement de crédit et il va falloir effectivement arbitrer et peut-être différer certains projets, voire les envisager dans une enveloppe un peu plus restreinte. L'essentiel du travail de la nouvelle Assemblée consistera effectivement à adapter ces projets aux possibilités que lui accorderont les moyens budgétaires dont elle disposera.
Une gestion somme toute de bon père de famille proposée par Philippe Fèvre, mais pour Étienne Pourchère, il y a des priorités prioritaires.
Vu la situation économique du département, je crois que dans les 3 ans qui viennent, notre projet sera forcément tourné vers l'emploi d'abord. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la formation des jeunes Vosgiens. Le collège, c'est le dernier endroit où on a toute une classe d'âge en même temps qui passe à l'école. Après le lycée, c'est fini, il n'y a pas toute la classe d'âge, chacun est parti dans ses formations professionnelles. Le collège, c'est le dernier moment où on a toute la classe d'âge. Donc c'est le dernier moment où on peut leur donner l'égalité des chances. Donc il faut miser vraiment sur les collèges, il faut miser sur les nouvelles technologies. Ça a trop tardé, il faut maintenant pousser pour avoir le haut débit partout dans ce département, pour que les entreprises s'y sentent bien, qu'elles puissent se développer partout. Il faut que chaque euro employé soit un euro utile et en plus qu'il soit utile au développement économique de notre territoire. On n'a plus beaucoup de moyens aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'endettement, les départements qui sont étranglés par l'État qui ne transfère pas les moyens financiers en même temps que les transferts de charges. Donc il faut vraiment que l'argent soit utilisé à bon escient et sur des priorités fortes comme l'emploi.
Vous-même, vous plaidez aussi la cause d'une autre structure qui est celle des pays. Celui de la Déodacie que vous présidez. Alors, quelle est la place de ce pays de la Déodacie au sein du département, au sein du Conseil Général?
Les pays existent depuis une loi de 95. Ils ont été surtout développés à partir des années 98-99 sur la base de l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les communautés de communes, même si elles regroupaient un certain nombre de communes, étaient parfois un peu justes au niveau taille pour mettre en œuvre un certain nombre de projets, pour de la réflexion, mais aussi pour de la mise en œuvre concrète de projets. Et donc les pays sont des structures intercommunales d'intercommunalité. C'est l'intercommunalité des communautés de communes, si vous voulez. Et ça permet de faire aboutir, par exemple, quand on parle de transport, on est bien conscient que le transport ne s'arrête pas aux limites de la communauté de communes. Et donc il faut partager un certain nombre de sujets comme celui-là qui vont au-delà et qui vont, pour notre cas, vous me posez la question sur le pays de la Déodacie, à l'échelle d'un arrondissement. C'est-à-dire qu'on va de Raon-l'Étape à Gérardmer et de Provenchères à Brouvelieure. Ça veut dire qu'on a une surface suffisante pour mettre en œuvre un certain nombre de projets. Pour que ça soit pas une strate supplémentaire, ce qu'il faut, c'est qu'on utilise ces outils quand ils sont utiles et pas pour faire de la redondance. C'est-à-dire que si le dossier peut être traité par la commune, qui reste communale, s'il peut être traité en intercommunalité, qui reste intercommunale, et si on n'arrive pas à le traiter pour des raisons techniques ou financières au niveau de l'intercommunalité, alors on monte au niveau du pays. Et voilà comment un syndicat mixte de pays peut être utile à un territoire.
Sur le plan de l'organisation, quel est le lien qui existe entre les communautés de communes et le Conseil Général?
Alors le Conseil Général est un outil, une collectivité, qui peut aider les autres collectivités, notamment les communes et les communautés de communes, par le biais de l'aide aux communes et au développement local. Et c'est une part importante d'ailleurs de son budget, le Conseil Général des Vosges. Quelquefois, il faut dire les choses telles qu'elles sont, consacre 24 millions d'euros chaque année pour aider les communes. Donc c'est très important parce que notamment les communes qui ont le plus de difficultés financières comptent sur cette aide du Conseil Général pour faire aboutir les projets. Et même les communes qui ont plus d'aisance financière, on va dire, quand elles ont des gros investissements, des choses importantes qui rejaillissent d'ailleurs souvent sur pas seulement la commune en question, mais la communauté de communes, voire la communauté de communes quand elle investit, ça rejaillit aussi sur les voisins. Donc il y a besoin d'une aide et d'une solidarité départementale. C'est-à-dire ce qui est prélevé au niveau du département est réparti de manière solidaire entre les communes et les communautés de communes. En tout cas, ça devrait être le cas.
C'est ce qui explique un petit peu d'ailleurs que beaucoup de conseillers généraux siègent aussi d'une façon ou d'une autre dans une communauté de communes. C'est votre cas?
C'est mon cas tout à fait, et il y en a d'autres effectivement, parce que bien souvent on disait que le conseiller général a un souci de développer son territoire, et souvent l'outil pour développer le territoire, quand il y a plusieurs communes, c'est l'intercommunalité, et donc normalement les conseillers généraux se sont orientés vers les communautés de communes en se disant c'est un outil utile pour faire aboutir des projets, et beaucoup de conseillers généraux siègent dans les communautés de communes effectivement.
Pour autant, ces différents étages de l'organisation de la collectivité locale ou territoriale peuvent être aussi parasites les uns des autres. C'est en tout cas l'avis d'André Jacquelin, candidat de la majorité départementale au poste de conseiller général pour le canton de Gérardmer. Rencontre. Quelle est votre définition, André Jacquelin, du rôle d'un conseil général et a fortiori d'un conseiller général?
Le conseil général, c'est un échelon extrêmement important. Malheureusement, on voit que ça ne passionne pas énormément les électeurs. L'échelon le plus important, vraisemblablement, dans le quotidien des habitants, d'abord parce qu'il y a des compétences sociales très très importantes. Sur les Vosges, ça correspond à 200 millions d'euros d'aide sociale. Ensuite, il y a toutes les compétences obligatoires qu'on connaît, qui vont des routes, au SDIS par exemple,
l'organisation des secours. Il y a évidemment le transport scolaire, mais il y a aussi des compétences volontaires, les compétences économiques, les compétences touristiques. Et de ce point de vue, le rôle du conseiller général du canton de Gérardmer, qui est le premier pôle touristique du département, est très important. On a la chance inouïe d'avoir un canton qui a vraiment deux jambes pour avancer, puisqu'il a à la fois un pôle industriel puis un pôle touristique. C'est béni des dieux d'avoir ce potentiel-là. Et je crois qu'on doit, pour optimiser ce potentiel, faire avancer des dossiers. Je regardais par exemple l'évolution des emplois industriels. Sur les 10 ans qui viennent de se passer, on a perdu environ 350 à 400 emplois. Les entreprises, notamment du textile, qui sont en crise bien avant, malheureusement, 2008, ont fait des efforts d'adaptation. Et il y a parmi les entreprises gérômoises des véritables fleurons qui ont résisté et qui ont réussi même à rebondir et à porter très haut les couleurs de l'industrie textile dans le monde, d'une façon générale. L'élu du Conseil général doit aussi compenser cette récession du milieu industriel en amenant des entreprises. Et je crois qu'il y a vraiment un rôle du conseiller général à mettre les décisionnaires en interface, en réseau. Aujourd'hui, je considère qu'on ne peut rien faire si on n'est pas en réseau. Et je crois que la politique qui consisterait à venir serrer des mains, à être sur une photo et puis à apparaître partout où il se passe quelque chose, est aujourd'hui insuffisante. Il faut prendre les dossiers, se les approprier et puis aller les défendre devant les décisionnaires, quoi. C'est en tout cas tout l'objectif que moi je me fixe si les électeurs me font confiance.
Cette mise en réseau, donc ça parle aussi de communiquer l'image du département comme accueillante pour les entrepreneurs. Ça passe aussi évidemment, je suppose, par une modernisation du système des communications dans le département. Alors je parle du très haut débit.
Ça fait partie d'un projet très important d'investissement dès 2011 du Conseil général, de continuer à amener le haut débit sur le département des Vosges. On ne part pas de rien, il y a déjà des choses qui ont été faites. Il est évident qu'aujourd'hui, le désenclavement ne passe pas simplement d'un canton ou de notre pays des Hauts-de-Vosges, ne passe pas simplement par le train ou par l'amélioration des voies routières. Il passe aussi par ces moyens dont vous parlez.
Mais venons-en à la réforme des collectivités territoriales et à l'échelonnage administratif.
Je crois que la réforme a ça de bien, c'est qu'elle va déjà simplifier les échelons. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va rationaliser, clarifier les compétences. Moi, j'appelle de mes voeux une clarification des compétences. La responsabilité d'un élu existe que lorsque la compétence qui lui est donnée, lui est attribuée, est claire. Les détracteurs de cette réforme disent que ça va éloigner. Je pense qu'aujourd'hui, les électeurs demandent à leurs représentants qu'ils s'approprient les dossiers, les connaissent et les défendent au mieux, quoi. Donc je ne vois pas que dans cette réforme, il y ait un appauvrissement de la relation que doivent avoir les électeurs avec leur homme politique. Depuis que je suis dans un engagement politique, je me suis aperçu qu'il y avait une redondance des structures. Je donne souvent un exemple, celui de la filière bois. Je l'ai entendu, les problématiques de la filière bois, qui nous sont familières, nous qui habitons les Hauts-de-Vosges, je l'ai entendu évoquer cette problématique dans toutes les structures, que ce soit à la commune, que ce soit à la communauté des communes. Je suis allé un autre jour à une réunion au syndicat du pays et j'étais surpris d'apprendre qu'on allait en faire une question centrale et qu'on allait commencer par faire une étude sur la problématique, la problématique de la filière bois. Je trouve que cette redondance des structures, donc des compétences, est vraiment source de déperdition d'énergie et vraisemblablement déperdition d'argent, beaucoup d'argent.
Enfin, nous terminerons ce magazine comme nous l'avons commencé sur la question de la présidence de l'exécutif du Conseil général.
D'aucuns appellent de leur vœu le départ, la retraite de Christian Poncelet qui est entré en politique en 1962, il a 83 ans et disent-ils, il a bien mérité une retraite. Votre position ?
Ma candidature aujourd'hui, elle procède à la fois de l'aval de M. Poncelet, de sa majorité, et évidemment j'ai l'aval de M. Vanson, donc je suis œcuménique de ce point de vue. Précisément parce que mon engagement n'est pas un engagement politicien et je crois que en fait le débat entre les hommes et celui que vous me citez, de savoir si M. Poncelet doit partir ou pas. D'abord, c'est un débat qui ne me choque pas. Partout où il y a des hommes, il y a des rivalités. Au global, je trouve ça plutôt sain. Personnellement, j'ai un objectif qui est extrêmement précis, celui de faire basculer le canton dans la majorité départementale au premier ou au deuxième tour. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de mettre la charrue avant les bœufs et de commencer à se poser les questions de troisième tour.
Un troisième tour qui consistera en l'élection par les conseillers généraux de leur président. Une élection donc au suffrage indirect pour les électeurs que nous sommes. Des électeurs appelés aux urnes le dimanche 20 mars. Une élection, vous l'avez compris, dont dépendra beaucoup des orientations futures de notre quotidien. Alors une consigne, allez voter. Et pour mieux choisir entre les trois candidats du canton, Gilbert Poirot, conseiller général sortant du Front de Gauche, André Jacquelin, de la majorité départementale que vous avez entendu à l'instant, et un nouveau venu, Jean-Christophe Tisserand du Front National. La rédaction de Cocktail FM organisera un débat samedi 19, toujours à 9h30, entre ces trois hommes qui y sont bien sûr invités. Dans quelques instants, d'autres informations nationales et internationales, celles-ci. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de nos programmes.